Émile Bergerat, un mouchard. Il avait nom Mocharès. Son père était, ou plutôt avait été, car il était mort, huissier au pays de Gascogne, de telle sorte que l'âme de l'enfant s'était ouverte au milieu des péripéties viles à la fois et terribles de cette chasse aux pauvres dont l'État accrédite les Némrodes. Il n'avait vu que saisie, il n'avait entendu que protêt, et sa mémoire de gosse n'était hantée que de visions de ventes à l'encan, devant les chaumières ou sur les mailles, tableaux d'imbrécation et de larmes. L'excuse d'un pareil métier serait d'enrichir au moins ceux qui l'exercent, n'est-ce pas? Or, il paraît qu'il n'en est rien. L'huissier était parti à peu près aussi pauvre que le job qu'ils ont jeté au fumier, laissant à son fils le soin d'une vieille mère d'abord, puis deux sœurs à nourrir, élever, vêtir, et puis marier, s'il était possible. Et ces trois créatures, très douces, traînaient leur vie là-bas, aux alentours de Périgueux, dans un carré de choux, ou plutôt de pois, à l'orée d'une châtaigneraie, entre six poules, deux chats et un compagnon de Monseigneur Saint-Antoine. Mocharès, qui les adorait, était venu à Paris pour leur gagner de l'argent, car à Périgueux, il n'y a rien à faire pour les poètes. Et il l'était, le malheureux. La loi des contrastes semble commander aux œuvres de la nature. Elle se plaît à tirer pour ses croisement un poète d'un huissier, comme un huissier d'un poète, si ça l'amuse. Et la physiologie, science exacte, y perd, comme on dirait, ses lunettes. Et comme toutes les économies partielles avaient fondu à son éducation, Mocharès avait de la culture, de la lecture. Il était en outre vraiment doué pour le métier si beau, mais si inutile, des lettres. C'était à la fin du Second Empire. L'opposition se déchaînait. Elle jetait ses cris d'orfraie dans une foule de journaux agressifs, intrépides, où se dépensait un talent considérable. Et Mocharès y trouva l'emploi de sa verve, très pessimiste d'ailleurs, et noire comme les rêbes. Ces articles sentaient le glas non seulement du régime, mais de la société tout entière. Il semblait vouloir y venger tous les pauvres bougres, c'était son style, saisi et vendu par son père. Quant à lui, il se privait de tout, s'alimentait de bouillie de châtaigne, et envoyait là-bas à la maman et aux chères sœurettes le peu qu'il arrachait aux caisses précaires des organes, hélas, plus précaires encore. Je le connus à cette époque, dans un de ces cafés littéraires du boulevard, où la presse libérale forgeait ses bombes contre le gouvernement de Roumer, le vice-empereur. Et pour préciser, au café de Madrid, ce fut là que l'excellent Carja nous le présenta avec enthousiasme. « Le pur des purs, nous disait-il, comme l'eau qu'il boit du reste. » Mocharès, en effet, n'avait devant lui qu'une carafe. Il ne loue plus qu'à moitié, malgré son beau front chevelu, où dardaient comme des soupiraux de cuisine sous un dôme, les yeux enflammés, couleur de cuivre. Il fallut qu'après son départ, Carja, qui les avait noirs, expliquait à l'homme et sa vie pour le talent aidant, pour que le talent aidant nous revînt sur notre pression défavorable. Même Mocharès ne fut plus rare sur les boulevards. Il se fit beaucoup plus rare et les journaux où il plaçait sa copie contre-révolutionnaire, disparaissaient l'un après l'autre, abattus ou musclés par leur une fée empereur, et les gens de plume commençaient à être renvoyés par les gens d'action qui descendaient dans la rue et la déparaient. Que devenait Mocharès? Comment faisait-il vivre et de quoi les trois femmes aimées du carré de pois périgourdin qui formaient son saint roman de poésie? Oh, je l'avais bien rencontré un jour dans les galeries du Palais-Royal, et j'avais même échangé quelques mots avec lui au sujet de son éclipse. Mais ce qu'il m'en avait dit sonnait tellement la blague que je n'y avais vu que l'un de ces faux fuyants trompés et ironiques par lesquels on écarte une curiosité inopportune. Que devenez-vous, mon Charès? Vous voyez? Et qu'est-ce que vous faites? Je suis mouchard. Et nous étions séparés en riant sur cette fumisterie que j'étais allé raconter au café de Madrid, où il avait paru très boulevardière. Mouchard, Mocharès? Oh, elle est bien bonne. Il l'était. Nous ne le sûmes d'ailleurs que longtemps après. Nous en fûmes alors comme foudroyés. Oh, c'est effrayant, Paris, où l'on voit de pareilles choses, et cette société détestable qui le rend possible. Mais les faits étaient parlés d'eux-mêmes. Lorsqu'il ne trouva plus de placer sa copie nulle part, Mocharès se mit résolument à la recherche d'une besogne quelconque, fût-elle criminelle ou manuelle. Mais on ne s'improvise pas un bon ouvrier d'un métier qu'on ignore, et les spécialistes défendent de l'homme à tout faire. Ah, si sobre qu'il fût, et si brave, le fils de l'huissier connut bientôt l'horreur des jours de tare originelle, et dans les asiles de nuit, à la corde, ses insomnies fiévreuses s'éclairaient de la chandelle des ventes alancants, lugubres de son enfance. Il ne voyait plus rien là-bas. Il n'en voyait plus rien. Et sa mère mourut. Pour qu'il pût aller l'ensevelir, Carja organisa une collecte au Madrid. Et grâce à une confrère de la presse gouvernementale, on put y joindre un permis de circulation sur la ligne. Et quand il revint, un mois après, il nous remboursa tous, et chacun de nos petites contributions à la collecte. Il avait tout vendu. Meubles, immeubles, carrés de pois. Il ramenait à Paris la plus jeune de ses sœurs. L'aînée restait en Périgord, servante de ferme pour le pays. Il s'installa avec la cadette dans un logis de la rue Saint-Lazare et nous n'entendîmes plus parler de lui jusqu'au jour de notre rencontre au Palais Royal. Mouchard, Mocharès, elle est bien bonne. Un soir, bon, c'était au moment où les premières émeutes ébranlaient déjà le trône napoléonien, Mocharès passa devant la terrasse du café où nous étions réunis dans l'attente des nouvelles. Il s'arrêta, nous regarda, sourit, parut hésiter et délibérément entra. Il n'y avait pas de lieu à Paris où les choses et les gens de l'Empire fussent plus honnis, conspués et voués à l'exécration et cela à toute voix, sans taire les noms ou voiler les femmes, formes. Un roussin de force moyenne n'avait qu'à venir là, prendre un verre et écouter, pour se faire le plus riche provende de délation professionnelle. Les Tuileries, la dansaient dans toutes les enceintes. Ah, c'est Beaucharès. Et Vamin se tendait vers le transfuge. Il n'en prit aucune. Même celle du bon Carjar, stupéfait de cette réserve. Tiens, qu'est-ce que tu as ? Il secoua la tête sans répondre, tira une chaise et s'assit au milieu du groupe comme d'habitude. Ta sœur va bien ? Oui, je te remercie. Oh, je viens de faire entrer chez nous une grande modiste. Oh, elle est très heureuse. L'aîné se marie au pays. J'ai pu lui donner un peu de ce qu'il fait par ménage. La maman a son petit monument et des fleurs. Tout va maintenant. Et toi, tu es nippé comme Brumel. Ben, il le faut bien dans le métier. À propos, tu vas recevoir un recueil de vers. Oh, je l'ai dédicacé ce matin pour toi. Très républicain, mais lui, mais c'est le volume naturellement. Mais il y en a un autre pour ma polonaise. Quelle polonaise? Comment tu ne sais pas? Et Beaucharès se mit à rire. Puis se penchant sur Carja, lui jeta un nom aristocratique dans l'oreille. Toi, une comtesse? Toi, un pur? Oui, oui, je lui dois tout. En somme, c'est elle qui m'a présenté à la préfecture. De police? Oui. Alors, c'est le regret, tu l'es. Mouchard? Oui, parbleu. Nous étions tous dressés comme bien on pense. Et Carja, blême. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon métier, dit Beaucharès en haussant les épaules. Êtes-vous bête? Oh! Si on a vu un bourdon tomber dans une ruche d'abeilles, on peut imaginer l'effet produit par cet aveu cynique sur les habitués du Madrid, à cette époque en pleine effervescence révolutionnaire. Les uns brandissaient leurs verres, soucoupes et bouteilles. Les autres avaient empoigné leurs chaises. Ils levèrent leurs cannes. Et la vue était énorme. Va dire de ma part à Ouer qu'il n'est qu'une canaille. Mort à Mourinhiguet et son épouse. Régime de sang et de boue. Les honnêtes gens lui crachent leur dégoût. Et ainsi de suite, toute la haine des malédictions dans les châtiments de Juvénal de Guernesey nous dictait le glossaire. Pas si vite, dit Beaucharès, très calme et presque souriant, les uns après les autres. Je n'ai pas le temps de vous reconnaître. Allez, partez, parlez, chacun à votre tour. Et il tira son calepin de sa poche. Nous acceptâmes son défi. Chacun proféra son injure propre contre le tyran et la tyrannie. Cela dictant, cela l'autographiant eux-mêmes, et tous la signèrent. « Mais t'en auras pour ton argent !» hurlait Carja hors de lui. « Et tu peux revenir. Chaque soir, tu nous retrouveras ici, et nous aiderons à gagner le port de honte que tu nous manges. » Alors Beaucharès voulut parler. Il se leva, blanc comme linge, il demanda le silence d'un geste, mais sous un tollé formidable, on le poussa à la rue sans l'entendre. Mocharès se fit tuer sous la Commune, dans les rangs des fédérés, à l'entrée dans Paris des troupes de Monsieur Thiers. Il était parmi les plus enragés contre les Versaillais. Quelqu'un que je pourrais nommer, si ce n'était trahir la confiance d'un vieil ami, m'a fait lire secrètement à la préfecture les rapports du Bouchard Mocharès, dossier JP numéro 64 ou 74, et ce ne sont que 10 tyrambes de camarades, Cajat, l'Étienne, poète et photographe, le meilleur homme de Paris, serviable à l'excès, admiré passionnément l'impératrice, partage toutes les idées de l'empereur sur le paupérisme, ne reproche à M. Huert que d'être auvergnat, encore dit-il que ce n'est pas sa faute, et toutes les autres en avenant. Plusieurs des délations sont en vers. Oh, la police secrète était bien faible sous le Second Empire.